VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia et Eki Abadou, avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en universel, au sommaire ce soir.
Journée historique pour la République démocratique du Congo avec la première passation de pouvoir pacifique dans l'histoire du pays entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi.
Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République.
Nous vous proposerons un dossier spécial sur l'investiture de Félix Tshisekedi et les nombreux défis qui l'attendent.
Formation d'un nouveau gouvernement au Burkina Faso qui fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes.
Ici aux États-Unis, deux projets de loi visant à mettre fin au shutdown sont sur la table des sénateurs ce jeudi.
Ne manquez pas dans 10 minutes l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Félix Tshisekedi est donc officiellement devenu le cinquième président de la République démocratique du Congo. Il a prêté serment aujourd'hui lors d'une cérémonie à laquelle des milliers de personnes ont pris part. On écoute un extrait.
Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées.
Le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur Joseph Kabila, qui quitte le pouvoir à l'issue des élections du 30 décembre. Il a aussi mis en exergue l'importance géostratégique du pays. On écoute.
Monsieur le Président, nous n'oublions rien de nos combats politiques, des moments difficiles traversés. Nous avons vécu au cours des décennies des périodes d'incertitude et d'extrême tension dans un climat politique non apaisé. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Votre action s'inscrit ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations.
Voilà Félix Tshisekedi, le nouveau président congolais. De nombreux défis attendent le nouveau président de ce pays au cœur de l'Afrique centrale. Écoutons à ce propos Christian Lusakweno, analyste politique et directeur de la radio Top Congo FM.
Si on se fie à son discours d'investiture, le gouvernement à investir à l'Assemblée nationale aura les priorités suivantes. La pacification du pays, on parle notamment de tout ce qui se passe à l'Est et au Kasaï chez lui. La lutte contre la pauvreté, qui n'est pas une sinécure, il y a beaucoup à faire de ce côté-là, avec le développement des infrastructures, avec la multiplication des points de production, ce qui n'est pas chose aisée. Le rétablissement de l'état de droit, avec une justice qui va rendre la justice qui a beaucoup été montrée du doigt ces dernières années, comme une justice aux ordres. Il y a la lutte contre la corruption et les antivaleurs, il les a cités, mais la corruption, c'est une véritable grande graine de la société congolaise, notamment l'administration et aussi ceux qui veulent éventuellement investir. Et justement, dans les investissements, il y a la facilitation d'affaires que Félix Tshisekedi cite parmi ses priorités, tout comme le développement des secteurs ruraux et la promotion des jeunes, des femmes et de la presse. Sur ce dernier point, il a d'ailleurs dit que cette presse doit être réellement le quatrième pouvoir. Dans son discours, on sent plutôt le souci d'abord de régler les problèmes du Congo, avec ce rappel des militants de son parti venus nombreux là-bas. Je vais le dire en lingala, Félix Kobo Salaté Papa Lobaki, en français c'est Félix, rappelle-toi que ton père, Étienne Tshisekedi, que tout le monde connaît, a toujours dit le peuple d'abord.
Le journaliste et analyste politique Christian Lusakweno.
Et maintenant sur l'ambiance, lors de la prestation de serment, on fait le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Un jour historique, c'est le cas de le dire, la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est déroulé dans une ambiance incroyable. Le palais de la nation, le siège de la présidence de la République était inondé de monde, des militants et sympathisants, de Félix Tshisekedi, de Vital Kamerhe et son colistier, mais également des curieux et ainsi que des nombreux invités venus assister à cette première passation pacifique et civilisée du pouvoir entre le président sortant et rentrant en RDC. Tout a commencé par l'audience de la Cour constitutionnelle qui a été suivie par le président Félix Tshisekedi, la prestation de serment du président Félix Tshisekedi qui s'est engagé à respecter la Constitution. Joseph Kabila lui a remis quelques symboles de la République avant qu'il ne prononce son discours. Il faut dire que son discours a été marqué par un moment d'arrêt qui a tenu tous les pays en haleine. Félix Tshisekedi qui prononçait son discours et s'est arrêté à un certain moment. Il a fait un malaise pendant une bonne trentaine de minutes. Plus de peur que de mal, il s'est relevé et a repris son discours. Il a parlé pendant une quinzaine de minutes, rendant hommage à de nombreuses personnalités et évoquant bien évidemment tous les défis qui l'attendent.
Thierry Kabundi de Top Congo FM.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs sur le continent, le Burkina Faso a un nouveau gouvernement avec le départ du ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, qui est remplacé par l'ancien président du Conseil national de la transition, Moumina Cherif Sy, qui aura du pain sur la planche avec la multiplication des attaques djihadistes. Le point avec Issa Napon à Ouagadougou.
La nouvelle équipe gouvernementale comporte 32 membres. À première vue, plusieurs poids lourds du parti majoritaire, le MPP, quitte le navire gouvernemental. Parmi eux, l'ancien ministre d'État Simon Compaoré, Clément Sawadogo de la Sécurité qui cède son fauteuil à Ousseyni Compaoré, puis Jean-Claude Bouda remplacé à la Défense par Moumina Cherif Sy, bombardé à l'occasion ministre d'État. Un autre poids lourd du gouvernement Tchéba, Rosine Sori Koulibaly, quitte le ministère en charge des Finances au profit de Lassane Kabore. Le ministère de la Justice est scindé en deux. Le garde des Sceaux René Bagoro cède une partie de son marocain à Maminata Ouattara au nouveau ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique. D'autres nouveaux ministres font leur entrée, notamment Salif Oudraogo à l'agriculture. Madiara Sano arrive au poste de ministre délégué en charge de l'administration territoriale. Léonie Lougué Sorgo à la santé et Salif Tchentouré qui atterrit dans le fauteuil de ministre en charge de la jeunesse. En termes d'application du genre, ce gouvernement compte une femme de plus que le précédent, soit 7 femmes ou un peu plus de 21%, ce qui est encore loin du quota de 30% promis par le pouvoir. Issa Napon
Ici aux États-Unis, le Sénat américain s'apprête à voter ce jeudi deux propositions concurrentes, une des démocrates et une autre devant des républicains pour tenter de mettre fin au shutdown, la fermeture partielle des agences fédérales. L'impasse a contraint le président Donald Trump à reporter son discours sur l'état de l'Union. Raissa Girondin.
Je ferai le discours quand le shutdown sera fini, a écrit sur Twitter mercredi soir le président américain. Le conflit entre républicains et démocrates qui prive de budget une partie des administrations fédérales est toujours sans solution. Le Sénat doit voter ce jeudi sur deux textes concurrents pour tenter, chacun à leur manière, de sortir de l'impasse. Au cœur de ce conflit qui dure depuis le 22 décembre, le mur que veut le président Trump à la frontière avec le Mexique. Il réclame plus de 5 milliards de dollars pour le financer. Les démocrates refusent de payer la facture pour un mur qu'ils jugent immoral. La proposition républicaine assure un financement du gouvernement jusqu'en septembre et intègre une enveloppe pour le mur et un sursis de 3 ans pour 1 million d'immigrants arrivés jeunes illégalement aux États-Unis. Le texte démocrate ne contient pas de budget pour le mur. Il propose la réouverture des administrations jusqu'au 8 février et promet de relancer le débat sur la sécurité aux frontières une fois le shutdown terminé.
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reçu l'appui de l'armée contre le président du Parlement, Juan Guaido, autoproclamé hier président par intérim et immédiatement reconnu par les États-Unis et leurs alliés dans la région. L'Union européenne a demandé des élections libres et le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits humains a appelé à une solution politique pacifique.
Les pourparlers entre une délégation américaine et des représentants des talibans se sont déroulés pour la 4e journée consécutive ce jeudi à Doha en vue de mettre fin au conflit en Afghanistan.
Bruxelles a décidé de former un recours contre le Royaume-Uni devant la Cour de justice de l'Union européenne, estimant que le pays ne s'était pas conformé aux règles sur la TVA pour certains marchés en matière première, des marchés de matières premières. Une décision qui survient à un peu plus de 2 mois de la date prévue pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union et qui pourrait avoir des effets sur la compétitivité.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
La campagne 2019 de l'IVEA en Côte d'Ivoire, premier producteur africain, s'est ouverte hier avec pour ambition de franchir la barre du million de tonnes et se hisser au 4e rang mondial dans 5 ans. Le Fonds de développement de la culture de l'IVEA va financer à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA la formation de 600 seigneurs dont le travail consiste à entailler les arbres pour faire couler la sève blanche qui est récupérée dans des récipients attachés au tronc. Le FDH va également réhabiliter 70 km de pistes agricoles et créer 3500 hectares de plantations. L'Égypte espère connaître une croissance économique de 5,3% au cours de l'exercice budgétaire se terminant en juin. Toutefois, à l'exception du secteur pétrolier, l'économie égyptienne a du mal à attirer les investisseurs étrangers depuis 2011. Le gouvernement compte sur l'expansion des secteurs des infrastructures, la fabrication et du tourisme. Terminons avec le groupe sud-africain Eskom qui pourrait être scindé en 3 sociétés distinctes pour aider à relancer cette société d'électricité en difficulté. Ces 3 entités appartiendront toujours à l'État et seront responsables de la production, la distribution et du transport de l'électricité. La réforme d'Eskom est essentielle car cette société fournit plus de 90% de l'énergie du pays, mais se noie dans des dettes.
Place à présent à notre page sport qui nous est présentée ce soir par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
Athlétisme pour commencer, Kenenisa Bekele fera son retour sur les pistes en mars.
Oui, en retrait, après sa victoire à Berlin, la star éthiopienne de 36 ans prendra part le 3 mars prochain au marathon de Tokyo. Selon l'équipe, l'athlète sera le favori d'un plateau révélé officiellement aujourd'hui par les organisateurs. Il profitera de cette compétition où il sera la tête d'affiche pour relancer sa carrière en stand-by depuis 2 ans. À Tokyo, Kenenisa Bekele n'aura pas en face Kipchoge ou Farah, comme ce fut le cas à Londres, mais il se mesurera plutôt à plusieurs athlètes kenyans, dont Dickson Chumba, double lauréat du marathon de Tokyo en 2014 et l'an passé.
Un transfert, celui de John Obi Mikel, qui a trouvé un point de chute.
Oui, le milieu de terrain international nigérien de 31 ans a rejoint Middlesbrough en 2e division anglaise jusqu'à la fin de la saison. John Obi Mikel était libre après la fin de son contrat avec le club chinois de Tianjin Teda. En 11 saisons à Chelsea, il a notamment remporté 2 titres de champion d'Angleterre, une Ligue des champions et une Ligue Europa. Il a aussi remporté une Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria et était le capitaine de sa sélection lors de la dernière Coupe du monde en Russie. Middlesbrough est actuellement 5e du championship et vise la montée en première ligue.
Blessé Neymar s'en remet à Dieu.
Que ta volonté soit faite, mon Dieu, a écrit le Brésilien sur son compte Instagram. Hier, Neymar est sorti sur blessure à l'heure de jeu lors du match de Coupe de France contre Strasbourg, remporté 2-0 par le PSG. Les premiers examens ont révélé une réactivation douloureuse de la blessure de l'année dernière à la cheville qui avait écourté sa saison. Cette nouvelle blessure, dont l'ampleur n'est pas encore connue, intervient à 3 semaines du choc de Ligue des Champions contre Manchester United. Elle préoccupe aussi la Seleção qui jouera la Copa América à domicile du 14 juin au 7 juillet prochain.
Le Real redevient le club le plus riche du monde.
Et oui, grâce à sa 3e victoire consécutive en Ligue des Champions, le Real Madrid est redevenu le club le plus riche du monde, détrônant Manchester United, selon la liste des 20 clubs les plus riches publiée par le cabinet Deloitte. La saison dernière, le Real a généré environ 774 millions d'euros de revenus, une première depuis 2014-2015. Manchester United a glissé au 3e rang derrière le FC Barcelone 2e, le Bayern Munich, Manchester City, le Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham complètent le top 10 des clubs les plus riches du monde.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahmane Dia et Ekiabadou, toujours en votre compagnie. On passe maintenant au dossier du jour.
Et on prend la direction de la République centrafricaine où les yeux sont rivés vers Khartoum, la capitale soudanaise, abrite à partir de ce soir des pourparlers inter-centrafricains pour une sortie de crise. Une centaine de personnalités parmi lesquelles les représentants des 14 groupes armés du pays et ceux du gouvernement devront plancher sur les revendications de ces mouvements armés. À Bangui, les réactions ne cessent d'affluer. Correspondance de Freeman Sipila pour VOA Afrique.
Même si plusieurs personnalités politiques et de la société civile s'estiment mises à l'écart de ce dialogue, les attentes sont nombreuses au sein de la population. En effet, le gouvernement et les groupes armés vont, à partir de ce 24 janvier, discuter les 104 points de revendication de ces derniers, compilés dans un document unique. À Bangui, plusieurs personnes rencontrées par VOA Afrique exigent la prise en compte des intérêts du peuple et non un partage de gâteaux.
Moi, je suis contre Khartoum. Dans le cas contraire, on utilise le langage de la force. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est les mêmes dire l'admissible par là, on veut rentrer dans le gouvernement. Ces mêmes gens, ça, ils sont dans le gouvernement actuel. Qu'est-ce qu'ils veulent encore?
Ce que nous attendons de la part de l'État, c'est la paix et la sécurité en un seul mot. L'État ne doit pas aller négocier avec eux d'une manière continuelle. Quand nous aurons la paix, du moment où l'État ne cesse pas de négocier avec eux.
On ne peut que dire au président de la République tout ce qui est comme question d'amnistie, question d'impunité, nous la jeunesse, on plus de ça.
De son côté, le groupe de travail de la société civile GTSC, non convié à ces échanges, attire l'attention des participants sur le respect de la constitution centrafricaine et des recommandations du Forum national de Bangui. Paul Cresson Beninga, son porte-parole.
Toutes les guerres, qu'il y ait un vaincu et un vainqueur, qu'il y ait ni vainqueur ni vaincu, finissent autour d'une table. Donc pour nous, le dialogue de Khartoum, a priori, nous ne devons pas le rejeter. Seulement, nous voulons attirer d'une part l'attention des parties prenantes et d'autre part celle de la communauté internationale sur un certain nombre de choses. S'agissant des parties prenantes, d'abord la nécessité de faire en sorte que les textes fondateurs de la République centrafricaine soient respectés, notamment la Constitution et les conclusions de la consultation populaire à la base. Ce sont des textes qui, de notre point de vue, sont fondamentaux et qui méritent respect dans le cadre de la résolution des conflits en Centrafrique.
La réaction des groupes armés ne s'est pas fait attendre. Pour Aboubakar Sidik Ali, porte-parole du FPRC, l'un des principaux mouvements armés, la Constitution n'est pas un livre saint.
La Constitution, c'est quoi? La Constitution, c'est quelque chose que le peuple avait décidé pour établir afin de diriger l'État ou bien la nation. Donc, la Constitution n'est pas un livre saint. La Constitution n'est pas descendue directement de Dieu. Toutefois, on peut le revoir s'il y a un problème.
Dans la foulée des réactions, l'opposant Joseph Bindunga n'attend rien de Khartoum.
Le régime Touadéra va à Khartoum en position de faiblesse, à telle enseigne que ce sont les rebelles, la Séléka, qui va mettre Touadéra en difficulté là-bas, lui faire avaler une ou des couleuvres, chose que le peuple centrafricain n'acceptera pas. Khartoum accouchera d'une petite souris.
Le dialogue de Khartoum, un dialogue de dernière chance. En tout cas, nombreux sont les centrafricains qui n'en voient pas une issue de sortie de crise. Ceux-ci proposent plutôt des mesures fermes contre les groupes armés qui continuent d'exploiter illégalement les ressources minières du pays. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, colère et indignation après l'attaque de la position des casques bleus tchadiens de la MINUSMA au Mali par des terroristes le 20 janvier. Une attaque qui a fait une dizaine de morts et de blessés. À N'Djamena, la correspondance d'André Kolmajinga.
Les Tchadiens ont été choqués par la mort de 10 soldats tués par des djihadistes au nord Mali le jour du rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et la République du Tchad. Il a fallu 48 heures au gouvernement pour annoncer la mauvaise nouvelle.
Le gouvernement rend un vibrant hommage aux vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur riposte foudroyante face à l'ennemi. Le gouvernement tient à rappeler que rien n'entamera son engagement et sa détermination à poursuivre sans relâche la lutte contre les forces obscurantistes, quel qu'en soit le prix.
Oumar Yahya Hissen, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Pour le journaliste indépendant et analyste politique Laldjim Narcisse, cette attaque est un message fort envoyé au président Déby qui renoue avec Israël pour combattre les djihadistes dans le Sahel, alors qu'Israël n'est pas en bonne odeur de sainteté avec certains pays arabes.
Les pays arabes ont un contentieux à solder avec Israël par rapport à l'occupation de la Palestine. Donc les États africains qui reprennent langue avec l'État d'Israël sont toujours dans le collimateur des islamistes. Parce qu'aujourd'hui, le retour d'Israël sur le continent africain vise à contrer la montée en puissance du terrorisme. C'est ça l'objectif.
Mahamat Amat Alabou regrette que le Tchad ait projeté ses soldats au Mali pour servir de chair à canon.
Quand cette affaire du Mali est arrivée, ce fut comme du pain béni pour le président Déby pour renouer les relations avec la France. Et donc, il a envoyé les soldats tchadiens qui sont devenus un peu le chair à canon pour protéger l'armée française. Et il est temps, de mon point de vue, que ces militaires tchadiens-là soient retirés du front malien, que les Maliens eux-mêmes montent en puissance pour défendre leur pays.
Le porte-parole du mouvement patriotique du salut parti au pouvoir, Hassan Sila Bakari, appelle ses compatriotes à la retenue.
C'est avec l'accord de l'Assemblée nationale que ces soldats sont aujourd'hui sur le terrain pour défendre la cause de l'humanité. Nous déplorons ces morts, mais ce sont des martyrs. Dire que c'est une manière d'avoir une certaine autorité au Tchad, c'est faire preuve de mauvaise foi ou d'amateurisme politique. La position du Tchad n'a pas changé non plus en ce qui concerne la question palestinienne. Nous sommes pour deux États distincts, un État palestinien et un État israélien qui vivent en paix côte à côte. S'il y a des aigris qui ne savent pas comment gérer les relations internationales, nous n'allons pas les répondre.
Le gouvernement informe qu'une mission conduite par le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense séjourne en ce moment au Mali pour évaluer la situation sur le terrain et qu'il se réserve le droit de faire tout commentaire. André Kodmadingar Ndjamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La tension monte au Nigeria entre l'exécutif et le judiciaire depuis l'inculpation pour corruption du président de la Cour suprême, Walter Samuel Onoghen. Le gouvernement fédéral l'accuse de ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires en devises étrangères. Cette affaire qui fait grand bruit au Nigeria est très politisée à moins d'un mois des élections générales dans le pays. La correspondance à Abuja de Gilbert Tamba.
Le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur la demande du gouvernement fédéral, mais déjà la défense conteste la compétence même du tribunal de code de conduite à juger cette affaire. Le tribunal de code de conduite est créé spécialement pour juger les questions éthiques comme les non-déclarations ou fausses déclarations d'avoir. Il y a quelques jours, la Haute Cour fédérale d'Abuja a tenté d'empêcher le gouvernement fédéral de poursuivre le plus haut magistrat du Nigeria devant le tribunal de code de conduite. Mais le dit tribunal a ignoré jusqu'ici la décision de la Haute Cour fédérale. En plus, au sein du système judiciaire du pays, on voit mal la démarche du gouvernement aboutir pour manque de procédures légales dans une situation pareille. Pour l'avocat Ovo, le président de la Cour suprême ne peut être suspendu de ses fonctions pour simple appel des autorités.
Il ne peut être suspendu. On ne peut pas aussi lui demander de démissionner. Il ne peut être démis de ses fonctions qu'en suivant la procédure légale comme le prévoit la Constitution. Les recommandations peuvent venir du Conseil national judiciaire et autres, mais il faut envoyer au Sénat. Ensuite, le Sénat doit voter et adopter cette motion à la majorité des deux tiers de tous les membres du Sénat.
Des organisations de la société civile ont manifesté leur soutien au président de la Cour suprême pour dénoncer son inculpation et le non-respect de la procédure. Giva Victor est le coordinateur du Conseil national pour les droits humains et de la justice.
Avant de prendre une action contre un officiel de justice, le Conseil national judiciaire doit statuer sur lui d'abord. Si le Conseil décide d'enlever son immunité judiciaire en ce moment, il peut être jugé tenir devant une juridiction compétente et ça, c'est notre position.
Parmi les manifestants se trouvaient également certains avocats venus soutenir le mouvement des organisations de la société civile. Pelimi Olagengbe est l'un d'eux.
Vous n'avez pas besoin de consulter un marabout pour comprendre que ce procès est politiquement motivé. En une semaine, vous voyez ce qui arrive au président de la Cour suprême du Nigeria. Il y a une tentative d'interférence dans le système judiciaire du pays. Et nous ne sommes pas là pour le chef de la justice seulement. Mais nous croyons que l'indépendance du système judiciaire doit être respectée.
L'opposition a aussi accusé le gouvernement de vouloir se débarrasser du juge suprême, considéré encombrant pour le pouvoir actuel, alors que la Cour suprême est compétente pour régler les éventuels litiges liés au scrutin de février prochain. Pour la deuxième fois depuis son inculpation, Walter Samuel Onogen était absent lors de l'audience qui s'est tenue mardi dernier devant le tribunal de code de conduite. La prochaine audience sur cette affaire est prévue pour le 28 janvier prochain. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Une société de robotique au Ghana vise à propulser le continent dans le futur avec la fabrication de robots qui contribuent à la productivité. La société a aussi pour mission d'encourager les jeunes ayant du talent à poursuivre une carrière dans la robotique en leur fournissant une éducation à l'Académie RoboCenter. C'est un récit de Gabi Dorsil.
Met Innovations est une société spécialisée dans la robotique basée au Ghana. Sa mission, promouvoir la robotique et d'autres technologies de pointe, particulièrement chez les jeunes. Afin d'intéresser plus de jeunes à joindre le domaine, Met Innovations a créé un espace d'apprentissage appelé RoboCenter. Son fondateur et PDG s'appelle Ben Naughty.
À RoboCenter, nous introduisons aux enfants divers aspects de la technologie, de l'électronique à l'intelligence artificielle, de la conception de robots à l'impression 3D, en passant par la technologie de l'Internet des objets. À RoboCenter, nous devons préparer ces enfants à devenir très influents au XXIe siècle. Cela signifie qu'ils doivent avoir la capacité et les compétences nécessaires pour créer des solutions, et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire.
RoboCenter est un espace important pour les jeunes du Ghana qui sont passionnés par la technologie. À part les cours et formations offerts, RoboCenter sert aussi de guide académique et professionnel. L'étudiante Ashida Adai Dessé explique comment elle en a bénéficié.
L'Académie RoboCenter m'a aidé dans la section des matières à étudier à l'université. Depuis mon enfance, j'étais passionnée par la technologie, la conception des sites web et tout cela. Mais je n'avais aucune orientation. Lorsque je suis arrivée ici, j'ai appris comment penser de manière analytique. On m'a appris à programmer en Java et cela m'a vraiment aidée sur ma décision d'obtenir une formation universitaire en informatique.
Les innovations technologiques avancent rapidement, donc il est important pour les jeunes de développer les compétences nécessaires afin d'être en mesure de prospérer et faire prospérer leur pays. De nouveau, le PDG Ben Naughty.
Actuellement, l'Afrique est considérée comme l'une des économies avec la croissance la plus rapide au monde et compte également beaucoup de jeunes qui veulent vraiment faire quelque chose d'important. L'avenir de la robotique en Afrique est donc très prometteur pour moi, car nous sommes confrontés chaque jour à de nombreux problèmes dans de divers secteurs, dont la santé, à l'éducation, en passant par les transports. Et moi, je suis fermement convaincu que si les jeunes reçoivent les outils nécessaires, les bonnes informations, les bonnes connaissances, ils seront en mesure de relever les défis auxquels nous sommes confrontés.
Actuellement, l'Académie de RoboCenter compte 5000 enfants et le nombre devrait passer à 30 000 cette année. RoboCenter est aussi en voie d'ouvrir de nouvelles branches dans d'autres pays sur le continent africain pour atteindre plus de jeunes. Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Joe Gill, au micro, Ekia Badou et Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui.
Et pour plus d'informations, un seul site internet voafrique.com. Bien sûr, notre page Facebook. Excellente écoute en compagnie de nos programmes. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, 1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.